This is Radio France International.
De Paris, RFI,
$30.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, votre radio dans toute sa richesse et toute sa diversité. Et ce soir, c'est avec Lucia Mouzel de la rédaction brésilienne. Et de ce projet de loi contre les infox qui fait polémique au Brésil et qui suscite les protestations des big tech, comme on dit, c'est-à-dire Google en première ligne. Pour la rédaction en russe, Denis Strelkov.
Добрый вечер.
Pour nous en dire plus sur l'attaque de drones sur Moscou l'autre soir. Et puis Aziz Ahmad Fahad de la rédaction persane.
Droud.
Qui a pu s'entretenir avec l'ancien ministre de la Justice d'Afghanistan. Avant cela, ce qui fait la une de l'actualité, surtout demain, c'est le couronnement du roi d'Angleterre, Charles III. Le prince de Galles devient Charles III. Ce sera à suivre en direct sur RFI à la mi-journée à partir de midi avec nos invités en studio et nos envoyés spéciaux, bien évidemment, dans le Royaume-Uni. Avant cela, Denis Strelkov, à Londres, on sait qu'il y aura des milliers de Britanniques pour assister donc à cette première pour le Royaume-Uni depuis le sacre d'Elisabeth II. C'était en 1953, il y a 70 ans. Des millions d'autres personnes seront devant leur télé. Et aux meilleurs endroits de la capitale britannique, des dirigeants du monde entier. Il y a ceux qui en seront et ceux qui n'en seront pas, car il y a des absents.
Ah oui, devinez qui ? On dit qu'en France, tout est politique ou presque. En Russie, c'est encore plus vrai, surtout quand les relations entre Londres et Moscou ne vivent pas leurs meilleurs jours. C'est au moins ce qu'on puisse dire. Aux grandes surprises de Moscou, entre guillemets, Vladimir Poutine n'a pas été invité au couronnement de Charles III. Et il n'y a que 6 pays qui ne sont pas conviés à cette cérémonie, y compris l'Iran et la Biélorussie. Ça fait partie de la politique britannique qui est loin d'être un partenaire de la Russie. Ces jours-là, réclame l'ambassadeur de la Russie à Londres.
Mais remontons l'histoire plus précisément aux événements qui datent de 1953.
Exactement, c'est le couronnement d'Elisabeth II. À l'époque, la guerre froide a déjà commencé, mais les délégations de l'URSS étaient bien présentes et l'URSS a même profité du moment pour envoyer un navire militaire à Portsmouth pour participer à une défilé militaire. Une détail intéressante, selon la presse russe, le navire Sverdlov, donc c'est ça le nom de ce navire qui est envoyé à Royaume-Uni, a failli être en retard et a entamé des manœuvres très dangereuse pour rattraper le temps une fois à Portsmouth. Donc la Russie a failli rater
à l'époque. Bah demain, de toute façon, on le ratera carrément. Tout ça, c'est dû bien sûr à la guerre en Ukraine. Alors justement, Denis, le président ukrainien Vladimir Zelensky a fait de nombreux déplacements en Europe ces derniers jours. Est-ce qu'il sera, lui, présent à Londres ?
C'est le premier ministre ukrainien Denis Shmigal qui va présenter le pays selon les sources officielles et il sera accompagné par la femme de Zelensky, Yelena Zelensky. Pas d'informations sur le président lui-même, mais vous savez que l'Ukraine a reçu une aide militaire très importante de la part de Royaume-Uni et les déplacements de Zelensky ne sont jamais annoncés en avance. Sa présence surprise, s'il aura lieu, ne sera pas une véritable surprise.
Un mot sur l'Iran dont vient de parler Denis, Aziz Fard. Est-ce qu'il y aura une représentation iranienne demain à Londres ? Apparemment pas.
A priori, non. Non seulement on ne participe pas à cette fête, mais je pense que du point de vue du régime iranien, cette fête, ce genre de fête n'est pas agréable.
Ce n'est même pas politiquement correct
que d'y participer, de leur point de vue.
Ouais, on y reviendra dans quelques instants. Avant cela, Lucia Mouzel, même question. Est-ce que parmi les invités présents demain à Londres, il y aura le président brésilien, c'est-à-dire Lula ?
Oui, tout à fait. Lula participe en ce moment même à une réception au palace de Buckingham, une invitation faite par le roi Charles III à certains dirigeants étrangers qui ont fait ce déplacement à Londres. Parmi les invités, Lula retrouvera notamment le président français Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Plus tôt dans la journée, le leader brésilien a été reçu par le premier ministre britannique Rishi Sunak pour une réunion bilatérale. Il s'agit du deuxième voyage de Lula en Europe depuis son retour au pouvoir en janvier. Après ses déclarations jugées décevantes sur l'Ukraine en avril, le président brésilien tente de se rattraper en se rapprochant de l'Europe. C'était le cas il y a une douzaine de jours à Lisbonne, au Portugal, et ensuite à Madrid, en Espagne. Maintenant, entre deux coupes de champagne pour fêter ce couronnement, Lula essaiera bien sûr de montrer à quel point ses partenaires européens sont importants pour le Brésil.
Et Est-ce qu'il y a d'autres dirigeants sud-américains qui traversent l'océan Atlantique pour assister à ce couronnement?
À notre connaissance, seulement les présidents de la République dominicaine, Luis Abinader, et celui du Paraguay, Mario Benítez, y seront présents, parmi ceux de l'Amérique latine et des Caraïbes. Mais plus au nord, le premier ministre canadien, Justin Trudeau, compte bien y être en tant que dirigeant d'un important pays du Commonwealth. Mais le président des États-Unis, Joe Biden, ne fera pas ce déplacement. Le démocrate y sera représenté par son épouse, Jill. C'est Biden lui-même qui a appelé Charles III pour lui prévenir de son absence. Et son entourage a fait savoir que jamais un président américain n'a participé au couronnement d'un roi ou d'une reine d'Angleterre. Et cette tradition, si on peut le dire, ne sera pas brisée cette fois.
Denis Relkov, je reviens vers vous parce que la presse russe parle bien sûr des gens qui seront là et qui ne seront pas là, mais elle pointe notamment le coût que va représenter cette cérémonie.
En effet, et même critique un tout petit peu, voici l'une des chiffres. Le coût s'élève à 125 millions de dollars. Et je vous cite le journal russe Moskovsky Komsomolets. Une inflation élevée et persistante, des années de stagnation des salaires, une flambée soudaine des prix de l'énergie ont poussé des millions de personnes au Royaume-Uni au bord de la pauvreté. Il y a beaucoup de gens qui, après avoir payé leurs factures, n'ont tout simplement plus d'argent pour acheter de la nourriture. Tout cela agace les Britanniques, selon la presse russe.
Et puis il y a les analyses politiques des différents journaux, différents médias russes.
Oui, celle d'un changement politique qui s'approche avec le couronnement de Charles III, même s'il n'a pas la vocation d'intervenir dans la vie politique du pays. Voici les pronostics d'un député russe, Anatoly Wasserman. Au cours de la vie de la mère de Charles III, l'essentiel de l'effondrement de l'Empire britannique a eu lieu. Il est fort probable que le fait d'avoir un nouveau roi, avec des points de vue et des qualités différentes de celles de sa mère, aura un impact significatif sur ces changements. Difficile de dire de quoi exactement parle M. Wasserman, mais une chose est sûre, si les députés russes ont l'occasion de critiquer le pays qui, selon eux, leur est hostile, ils le font.
Justement, à la rédaction brésilienne de RFI, Lucien Mouzel, vous avez suivi de près, et vous suivez régulièrement de près l'actualité liée au peuple indigène, et il y a, justement, on parle de politique, les excuses que les peuples autochtones de 12 anciennes colonies britanniques demandent au nouveau roi. C'est un sujet délicat pour la couronne britannique.
Et oui, car si Charles III a déjà affirmé que la monarchie doit reconnaître des fautes du passé, selon ces mots, une demande officielle d'excuses aux peuples indigènes des pays comme l'Australie n'a jamais été formalisée. Les peuples autochtones du Commonwealth souhaitent que le roi s'exprime sur la colonisation lors de son couronnement ce samedi et qu'il parle des siècles de racisme, esclavage et des génocides entre guillemets, qui, selon eux, ont été commis par la couronne britannique. Dans une lettre signée cette semaine par des leaders aborigènes d'Australie, par des Maoris de la Nouvelle-Zélande, des indigènes de Caraïbes et du Canada, ils demandent aussi à récupérer les objets et les restes humains collectés dans le cadre de la colonisation. Et enfin, ils souhaitent que la richesse de la monarchie soit redistribuée dans le cadre d'une réparation historique de ses fautes du passé. Nous savons que Charles III est particulièrement sensible à l'environnement et qu'il a dernièrement essayé de se rapprocher des peuples autochtones. Il avait notamment reconnu que le moment était venu d'échanger sur ce sujet lors d'une réunion avec les chefs de gouvernement membres du Commonwealth en juin dernier. Nous verrons jusqu'où sera-t-il vraiment prêt à aller.
Aziz Fard, est-ce que les Perses en général et les Iraniens en particulier s'intéresse à ce qui va se passer demain à Londres?
Oui, bien sûr. Il faut savoir que les Iraniens ont une identité forte. Cette identité iranienne prend source, entre autres, dans l'histoire de l'Iran ancien. Et là, on voit beaucoup de rois et quelquefois avec à leur actif des conquêtes très importantes comme l'Égypte ou le Yémen. Alors il y a des nostalgiques, surtout depuis la révolution islamique, des nostalgiques qui pensent au retour du roi comme solution au problème du régime islamique. Eux, même s'ils sont silencieux, ils regardent attentivement le couronnement de Londres, mais ils se disent au fond d'eux-mêmes à quelque chose près, nous aurions pu aussi avoir ce faste, cette faste et cette puissance s'il n'y avait pas eu cette révolution islamique. Voilà, ils pensent à ça, mais ils sont discrets. Et à RFI, nous, notre collègue Waïd a préparé un sujet là-dessus. Et c'est un film qu'on a sous-titré. Je n'ai pas de son parce que c'est sous-titré en persan. Et donc, dans ce film, il est question de la calèche royale, une calèche moderne pour aller jusqu'à Buckingham Palace, de Buckingham Palace jusqu'à l'église Westminster. Et ensuite, ils vont changer de calèche et prendre une calèche en or qui a 260 ans d'âge. Et ce sera pour le voyage du retour.
Vous parliez, il y a de cela quelques instants, de ces nostalgiques de la royauté en Iran. On se souvient d'ailleurs qu'avant les Mollahs, il y avait le Shah d'Iran qui était un roi. Est-ce que la monarchie est considérée par certains comme étant la solution aux problèmes que traverse traverse actuellement le régime islamique?
La question se pose depuis le mouvement qui a commencé avec l'arrestation de Mahsa Amini et sa mort dans les locaux de police. Encore une fois, la question de destitution du régime est posée, et encore une fois, la rivalité entre les partisans de l'ancien régime et les modernistes républicains, parce qu'il y en a aussi, se fait voir. Il y a eu une opération de délégation, ça c'était il y a quelque temps, qui n'a pas fonctionné. En fait, les partisans du fils de l'ancien roi voulaient faire signer une sorte de pétition auprès de l'ensemble de la population iranienne, surtout à l'étranger, de sorte que le prince est un titre de représentation du peuple. Seulement, cette pétition n'a pas eu tellement de succès. Et finalement, depuis, les partisans du royalisme sont plutôt discrets, on peut dire.
Lucie Mezel, je reviens vers vous parce que votre correspondante à Londres suivra donc la cérémonie, pendant laquelle il y aura notamment une chanson coécrite par un chanteur brésilien. Il a immigré au Royaume-Uni il y a 20 ans.
Oui, c'est une belle histoire et c'est quelqu'un de très sympathique à écouter. C'est la perle rare découverte par notre correspondante Vivian Oswald. Depuis quelques semaines, elle nous fait des beaux reportages autour de ce couronnement, car il faut le dire, les Brésiliens adorent accompagner les pas de la famille royale britannique. Bref, Viviane, elle a découvert que ce chanteur Moisés dos Santos est l'un des auteurs de la chanson Brighter Days, qui résonnera à l'abbaye de Westminster par la voix d'une chorale de 300 personnes issues de la Villa Madalena, São Paulo. Santos est arrivé à Londres dans les années 2000 pour y rester seulement 6 mois avec son groupe gospel d'une église évangélique et sans parler un mot d'anglais. Et par la suite, il est rentré au conservatoire de Birmingham. Il a été repéré par un de ses professeurs. Il n'a plus jamais arrêté la musique depuis, en jouant notamment du jazz. Donc, Brighter Days est né en plein confinement pendant le Covid lors d'une rencontre avec son amie chanteuse Émile Sandé et parle des jours meilleurs qui viendront. Donc, ce fut un succès sur les réseaux sociaux, les plateformes de streaming. Écoutons-en un extrait, peut-être que vous la connaissez. We've seen it all, the tears are falling, and every step is on the edge, and we're so confused, we don't understand, it feels like this night won't end, but there's gonna be brighter days, brighter days.
Dites-nous en plus, Lucia Mouzère.
En tout cas, elle est très émue, ce chanteur, d'entendre sa chanson qu'il a coécrite, donc d'être diffusée à un moment aussi important, au couronnement du roi. Il est très, très ému.
Donc, il y aura un peu de Brésil demain sous les voûtes de l'abbaye de Westminster. Et demain, Radio France Internationale vous proposera une édition spéciale à la mi-journée, dès midi. François Ballarin à ce micro avec des invités et nos envoyés spéciaux à Londres.
20 часов в Париже,
20 градусов.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
En Russie, c'est toujours la guerre en Ukraine qui fait la une de l'actualité, bien évidemment, avec ces deux drones qui ont explosé au-dessus du Kremlin cette semaine, autrement dit en plein centre de Moscou. Cette attaque attribuée aux Ukrainiens par Moscou pose plusieurs questions, alors que Kiev dément fermement son implication. Denis Strelkov, de la rédaction russe, Tout le monde parle de cela.
C'est du jamais vu, ou presque. Le Kremlin n'a pas été bombardé depuis la guerre contre l'Allemagne nazie. Ça fait 80 ans que les moscovites le savent. Si vous voyez des explosions au-dessus du centre de Moscou, au-dessus du Kremlin, ce sont des feux d'artifice. Et point. Mais ici, on observe un véritable changement d'époque. C'est le centre de Moscou qui est frappé par l'ennemi. Attention, ici, c'est le point de vue des autorités russes que je vous donne. Une des explosions a eu lieu à côté du drapeau russe. Et même si les dégâts sont modestes, c'est le côté symbolique qui compte. Et là, le symbole est très fort, Philippe, pour la propagande russe. Les différents acteurs de cette machine de propagande appellent Moscou à riposter et frapper le centre de Kiev, voire quand Dmitri Medvedev, l'ancien président russe, a évité toute discussion avec l'ennemi, a éradiqué les pays voisins, le niveau de la haine est monté assez haut.
Alors revenons maintenant sur le déroulé des événements, sur ce qui s'est produit précisément dans la nuit du 2 au 3 mai.
Moscou, selon les images des caméras de surveillance, est presque vide. Il est 2h de nuit, heure locale. Plusieurs moscovites sont partis en vacances. Le pont des jours fériés du mois de mai, entre le 1er mai et le 9 mai, le jour de la victoire, la capitale est souvent un peu délaissée par la population, un peu comme Paris au mois d'août. En plus, la place rouge est fermée pour quelques semaines avant la parade militaire du 9 mai. Et c'est à ce moment-là que les habitants du quartier entendent une première explosion. Certains le comparent avec un bruit d'orage. Puis ils voient de la fumée, l'éclairage du mur de Kremlin s'éteint. Après, avec 15 minutes d'écart, une deuxième explosion. Le toit du Kremlin est en feu, mais la flamme est rapidement maîtrisée.
Oui, justement, que sait-on précisément du bâtiment ou des bâtiments qui a été touché par ces explosions?
Il y a un bâtiment qui a été touché, ah. Tout se passe au-dessus du palais du Sénat. Mais en effet, c'est le nom historique de ce bâtiment, ce n'est pas le Sénat qui siège ici. Ce bâtiment abrite la plupart des espaces de travail utilisés par Vladimir Poutine et son administration. Vous vous souvenez peut-être de la fameuse réunion du Conseil de sécurité quelques jours avant que la Russie n'attaque l'Ukraine. C'est là où Vladimir Poutine, a pris la décision d'attaquer le pays. Il a eu lieu dans ce bâtiment. Cependant, il faut rester prudent. Rien ne nous indique que Vladimir Poutine était là à l'intérieur à 2h du matin.
En tout cas, c'est la raison pour laquelle certains disent que c'est un attentat contre Vladimir Poutine et que le but, c'était donc de l'éliminer.
Effectivement, c'est le point de vue officiel du Kremlin. Mais surtout qu'il faut avoir, un discours de guerre qui est très vite répété par plusieurs médias. Et c'est pour ça que le mot attentat et le mot tentative d'assassiner Poutine est utilisé par les autorités.
Vous l'avez dit, ça s'est passé au milieu de la nuit. Il y avait très peu de témoins. Donc, comment être sûr qu'il ne s'agit pas d'une provocation, peut-être de la part du Kremlin?
Ce sont des questions essentielles que vous posez, Philippe. Effectivement, tout d'abord, comment on peut être certain qu'il y avait des explosions dans le centre de Moscou et qu'il s'agissait des drones? Ici, peu de doutes persistent. Déjà, les habitants du centre de Moscou, comme j'ai dit, ont entendu le bruit. Ils ont vu de la fumée, les explosions. Ils sont assez nombreux à le faire. Ces boules de feu ont été filmées depuis plusieurs endroits. Les journalistes indépendants ont pu les comparer. Résultat affirmatif, deux explosions ont eu lieu à Moscou. Les images montrent aussi que les drones qui ont été filmés à l'approche, eux, sont aussi bien réels. Par contre, on ne sait pas d'où est-ce que les drones ils ont été lancés. L'image qui a été partagée par le Kremlin sur le site officiel a été tournée depuis le bâtiment sur la place Rouge. Malgré différentes rumeurs, ce bâtiment existe. Il est occupé par des forces de sécurité du Kremlin. Mais il y a un détail qui sème le doute. La qualité de cette image, dite de surveillance, est très bonne. C'est comme si quelqu'un tenait la caméra et savait que l'explosion aura lieu. Un détail qui rentre en conflit avec une version officiel des faits.
Alors, et parmi les réactions, là aussi, il y a des versions qui s'opposent.
Effectivement. Et donc, il y a deux points de vue ici, comme vous pouvez l'imaginer, et ils ne sont pas du tout les mêmes. Tout d'abord, la vision de Moscou, les autres officiels russes ont pris énormément du temps pour donner leur vision des faits. Entre les explosions et le tout premier message du Kremlin, imaginez-le, environ 12 heures pour prendre la décision. Cette version, où on est attaqué par l'Ukraine, et Vladimir Poutine lui-même qui a été visé, c'est Dmitri Peskov qui l'a annoncé, la porte-parole du président russe. Après, c'est Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, qui a ajouté quelques nuances. On l'écoute.
Zelensky et son commande делают все и в медийном пространстве, и в своих практических шагах.
Quelles sont les explications de Sergei Lavrov?
Il dit que Zelensky fait tout pour éviter toute discussion avec Moscou, que c'est un acte terroriste hostile à notre pays et l'Ukraine n'aurait pas pu le commettre sans accord et coopération des États-Unis. Nous ne répondons pas par des paroles, mais nous allons répondre par des actions concrètes, a annoncé Sergei Lavrov. Mais la réaction qu'on entend le plus du côté de la Russie, c'est bien évidemment celle de Vladimir Poutine. Et là, silence radio, le président du pays en guerre a mené plusieurs rencontres depuis cette attaque-là, mais pas un mot sur le feu au-dessus du Kremlin.
Alors ça, c'est côté russe. Côté ukrainien, quelle est la version?
On répète à Kiev depuis des jours, le message est le même. On n'a pas attaqué le Kremlin, on n'attaque que des civils militaires. En plus, les drones sont très chers et endommager le toit du Kremlin ne rapporte rien à notre victoire. Mais il faut bien préciser deux choses. La première, c'est que l'Ukraine n'a jamais reconnu même une seule explosion sur le territoire russe, même quand il y a des objets militaires qui sont clairement visés, soit par des partisans de l'Ukraine, soit par l'Ukraine elle-même. Et le deuxième, c'est qu'un banquier ukrainien, Vladimir Yatsenko, a promis 20 millions de Grivna, ce sont aux alentours de 500 000 euros, à celui qui fera atterrir un drone sur la place rouge le jour de la parade militaire le 9 mai. Les Ukrainiens le croient donc, le Kremlin est à leur portée.
Et cela dit, on se souvient que Matthias Rust, je crois que c'était en 1987, oui, avait réussi à poser son petit avion, un Cessna, sur la place rouge.
Effectivement, surtout qu'il a réussi à traverser presque tout le pays sans être remarqué. Visité. Et ici, attention, les drones, on ne sait toujours pas d'où est-ce qu'ils ont été lancés. Est-ce qu'ils ont été lancés depuis Moscou, vu que ce sont des drones assez compacts en quelque sorte. Le compact, c'est relatif, c'est 3 mètres. Ou est-ce qu'ils ont été lancés depuis l'Ukraine? Effectivement, ça, il n'y a pas d'informations viables.
Merci Denis Strelkov de la rédaction russe de Radio France Internationale. Au Brésil, il y a un projet de loi consacré aux fake news, aux fausses informations en bon français. Un projet qui fait polémique. Depuis des années, le pays essaye de légiférer sur le sujet, mais encore une fois, le texte présenté aux députés brésiliens a été repoussé. Alors à quoi est due cette impasse, Lucia Mouzel ?
Déjà, réguler le contenu diffusé en ligne et augmenter la transparence des réseaux sociaux, ça n'a jamais été facile. Nous avons vu ceci en Europe même. Le Brésil n'échappe donc pas à ce bras de fer entre d'un côté le gouvernement et de l'autre les grandes plateformes du numérique, Google, Meta et TikTok en tête, mais aussi l'opposition de droite là-bas face au projet présenté par les alliés du président de gauche Lula. Le texte, il est ambitieux et très inspiré d'ailleurs de la réglementation européenne, la législation des services numériques, avec un accord sur la rémunération des contenus produits par les médias et les journalistes professionnels, des droits d'auteur aux artistes. Il prévoit aussi un devoir de vigilance de la part des plateformes sur les contenus faux diffusés en ligne, avec des sanctions à la clé. Cependant, les opposants de ce projet de loi ont engagé une campagne si féroce contre la mise à vote du texte que son rapporteur a été obligé de tout reporter pour l'instant.
Et vous avez remarqué que Google a même mis sur la page d'accueil de son moteur de recherche en portugais brésilien un lien qui amène à une lettre ouverte contre cette proposition.
Oui, tout à fait. Je vous dis, c'était vraiment une campagne acharnée depuis 2 semaines. Selon Google, le projet de loi mettrait en cause le principe de contenu gratuit, comme c'est le cas aujourd'hui, et risquerait, selon eux, de stimuler davantage la diffusion de fausses informations. Les plateformes craignent surtout en fait une avalanche d'amendes puisqu'elles pourraient être condamnées à payer jusqu'à 200 000 euros par heure en cas de non-respect d'une décision de justice de suppression d'un contenu jugé illicite. Pour elle, donc, toute la question, c'est de savoir qui serait en charge de contrôler les milliers de notifications qui seraient données par les utilisateurs eux-mêmes. Et dans ce sens, nous avons interviewé une professeure de droit, Yasmine Curzi, de la Fondation Getúlio Vargas de São Paulo. Selon elle, il manque en effet un organisme impartial pour faire tout ce tri. Écoutons-la.
Importante também que o PL ele seja aprimorado, a meu ver, para prever devidamente a atuação de uma autoridade independente e imparcial com recursos adequados.
Aidez-nous à comprendre.
Elle dit qu'il fallait d'abord créer cette autorité véritablement indépendante, impartiale, avec des ressources financières et des professionnels tout aussi indépendants pour faire ce travail et éviter ainsi des abus d'un côté, ou du laxisme par rapport à ce qui dit la loi.
Que disent maintenant les opposants de droite, Lucia ?
Ils estiment qu'un contrôle accru des réseaux sociaux pourrait mettre en cause la liberté d'expression. On entend déjà cet argument depuis un moment, aux États-Unis aussi. Ils ont popularisé le terme « projet de loi de la censure » pour désigner ce texte. Mais il faut souligner que c'est une véritable machine à fake news qui a créé le phénomène Jair Bolsonaro au Brésil. L'ancien président président a été élu en 2018, presque réélu en 2022, grâce à ces millions de contenus faux partagés sur les réseaux sociaux. Je vous signale aussi que les évangéliques, qui sont très puissants au sein du Parlement brésilien, sont fortement mobilisés en ce moment contre toute réglementation. Les fake news sur le thème de société, comme l'avortement ou la supposée propagande LGBT, marchent malheureusement très bien sur leurs réseaux. Pour l'avocat et professeur de droit de l'Université de Brasilia, Henrique Costa, il est temps de déterminer les obligations de cette jungle, selon lui, dans laquelle s'est transformé Internet.
Non é mais só sobre fake news, né? É um assunto que toca diversas dimensões da nossa vida. A gente está falando de ferramentas de busca, aplicativos de mensagem. E hoje nossas vidas.
Quelle est son analyse?
Bah, il dit que le cœur de ce projet n'est pas seulement le fake news, mais une infinité de thèmes qui touchent à nos vies quotidiennes, comme la santé publique, la consommation, la publicité. Il ne voit donc pas de censure dans le texte proposé, mais dit voir plutôt une réponse à des problèmes réels qui doivent être combattus au plus vite possible.
Est-ce qu'on peut dire qu'avec le report de ce texte, le président Lula essuie un premier revers au Congrès ?
C'est mitigé. L'opposition, elle remporte certes la victoire d'une bataille, au moins jusqu'à ce que le groupe parlementaire de gauche présente à nouveau un texte plus détaillé sur la mise en place de la future loi. En tout cas, en demandant plus de temps pour son analyse, son rapporteur et un ancien ministre de Lula, il évite un échec majeur à l'arène parlementaire où le président n'a pas de majorité. L'actuel législatif brésilien est le plus conservateur jamais vu depuis 40 ans. Donc on peut espérer que la suite de ce projet ne soit pas du tout donnée.
Hein. Et Lucia Musel de la rédaction brésilienne de RFI. À présent, une interview à écouter sur l'antenne Persane de Radio France Internationale. Aziz Fard, il s'agit de l'interview de l'ancien ministre de la Justice d'Afghanistan.
Oui, nous avons eu la chance et le privilège d'interviewer l'ancien ministre de la Justice d'Afghanistan, M. Manawi, dans nos locaux. Il explique comment le pays est retombé dans les mains des talibans pour expliquer l'échec des gouvernements de Karzai et de Rani. Il fait le point sur l'objectif de ces démarches et le bilan de ces deux gouvernements de Karzai et de Rani.
Écoutons-le. Alors, qu'a-t-il déclaré sur l'antenne de RFI ?
Voilà, il fait le bilan des 20 années de gouvernement qui a finalement échoué en trois points, en précisant l'objectif. L'objectif des Américains, en fait, mais qu'il fait sien, c'était dans un premier temps la lutte contre le terrorisme, dans un deuxième temps ce que les Américains appelaient « state building », construction de l'État, et troisième objectif, lutte contre les narcotrafiquants et les crimes organisés. Lui, il fait le bilan en disant que nous avons malheureusement échoué sur ces trois plans, même si beaucoup de travail a été fait. L'Afghanistan est un pays pauvre, arriéré, qui avait besoin d'assistance, mais les aides n'ont pas été gérées comme il fallait. Les réseaux terroristes sont toujours là, la démocratie mal ficelé, a disparu. Et donc, le bilan est négatif. Et le fait que tout ça a échoué, l'analyse de M. Manawi, c'est que tout ça, la raison réside dans la façon dont tout ça a fonctionné, à savoir, on a eu la démocratie, on a eu des élections, mais il y a eu de la triche, il y a eu de la manipulation. Et tout ça, on fait que ça n'a pas duré. On a créé un État, le state building a commencé à fonctionner, mais ça n'a pas très bien marché parce qu'ils ne l'ont pas fait comme il fallait. En fait, il partage le bilan négatif, M. Manawi, comme les gens qui observent et qui les critiquent. Seulement, lui, il précise que dans les gouvernements, il y avait beaucoup de monde. En fait, il faudrait aller chercher dans les détails qui a fait quoi pour savoir de façon précise qui est responsable de tous ces échecs.
Alors, ce sont ces analyses et ces commentaires, mais qu'est-ce qu'il représente politiquement aujourd'hui, ce monsieur Manawi?
Voilà, le problème, c'est ça. C'est que les gens détestent les anciens de l'ancien régime, même si c'était 20 années de démocratie, 20 années agréables pour l'Afghanistan, mais ils sont détestés. On leur reproche le bilan des 20 années du gouvernement pro-occidental. Et lui, il accepte, bien sûr, ses reproches. Pas personnellement, comme je disais, mais au nom de l'ancien gouvernement dans son ensemble, où du moins au nom d'une fraction, parce que l'ancien gouvernement était composé de fractions de gens qui venaient du sud, des gens qui venaient du nord, de Panchir et tout ça. Et lui, M. Manaoui, il représente plutôt la branche Panchiri, les gens qui représentent une tendance qui est la filiation de l'ancien commandant Massoud, finalement. Donc, en tant que représentant de cette fraction du pouvoir, il partage toutes les critiques que les gens formulent, mais pour le comprendre, pour l'expliquer, il a une analyse qui va plus dans les détails du fonctionnement de chacun.
Et c'est donc à retrouver sur le site persan de RFI. C'était Accent du Monde, à retrouver, bien évidemment, là aussi, sur le site internet de Radio France Internationale.